Europe Soir, Christophe Lamarre.
Tourisme et écologie peuvent-ils faire bon ménage? Peut-on voyager sans détruire la planète ni dénaturer les lieux que l'on visite? Où se situe la limite? Vaste question. Par endroits, elle est déjà franchie depuis longtemps et provoque la colère des autochtones. À Barcelone, ce sont les habitants qui refusent l'idée que leur ville se transforme en parc de loisirs à ciel ouvert avec ses excès et ses nuisances. C'est Venise qui veut dire stop aux croisiéristes. Le tourisme est devenu une industrie, une manne pour de nombreux pays et la France y a succombé elle aussi. Quelles sont les règles à poser? Et existe-t-il un tourisme raisonné et donc raisonnable? Bonsoir Rémi Knafou.
Bonsoir Christophe Lamarre.
Professeur émérite de géographie à l'Université Paris 1 Sorbonne, cofondateur du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges et auteur du livre surtout « Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde » aux éditions du Faubourg. Tout d'abord, Rémi Knafou, il y a une activité qui vous fera sourire ou bondir, c'est selon le pass sanitaire est obligatoire pour voyager. On ne va pas rallumer une guerre qui n'a pas lieu d'être entre vaccinés et non vaccinés, mais le fait est, Rémi Knafou, que nous serons peut-être moins nombreux à prendre l'avion cette année.
Certainement, et pas simplement à cause du pass sanitaire d'ailleurs, mais parce que tout simplement, beaucoup de frontières sont encore fermées. Vous savez, le monde est divisé en pays rouge, orange, vert, et les destinations ouvertes au tourisme à partir de la France, par exemple, sont quand même relativement peu nombreuses. Et puis en plus, c'est un peu un parcours du combattant. Donc c'est aussi pour cette raison que les Français vont plus encore que d'habitude rester en France cet été.
L'industrie du tourisme, puisque c'est devenu une industrie, est-ce qu'elle peut se remettre de ce choc lié à l'épidémie? Est-ce qu'elle va devoir muter, changer?
Alors, le choc a été extrêmement dur, hein, puisque elle a dû faire face à un arrêt quasiment des flux. Donc, c'est un choc sans précédent dans l'histoire du tourisme, puisque même les guerres mondiales n'avaient pas entraîné une telle interruption des flux à une échelle évidemment bien plus réduite. Donc, c'est un choc dont elle va devoir se remettre. Elle n'aura pas le choix. Et en même temps, elle n'aura pas le choix non plus d'essayer de ne pas tout à fait repartir comme avant, même si nous avons tous le désir de rattraper parfois le temps perdu. Mais la croissance telle qu'elle était jusqu'en 2019, c'était une croissance exponentielle, ne correspond pas à un tourisme durable. Ça ne pourra pas durer éternellement. Et en même temps, la difficulté et la contradiction à résoudre, ou à essayer de surmonter, c'est qu'une fois que la pandémie sera terminée ou que nous aurons appris à vivre avec elle, et que les flux, les échanges repartiront, eh bien, il y aura un afflux sans cesse croissant de touristes, parce que dans le reste du monde, l'Europe a l'habitude de pratiquer du tourisme depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais il y a une grande partie de la planète qui s'ouvre au tourisme chaque jour davantage, puisque accéder aux pratiques de tourisme, ça participe de l'élévation du niveau de vie. Mmh. Et donc, il y aura une quantité croissante de la population mondiale qui voudra accéder au tourisme et qui va venir s'agréger à ceux qui voyageaient déjà. Donc, c'est face à cette situation-là qu'il nous faut trouver des solutions un peu différentes et en particulier davantage exploiter les capacités d'accueil telles qu'elles existent en essayant d'éviter ce qui a été la tentation permanente dans l'histoire récente du tourisme, c'est-à-dire la fuite en avant, construire sans arrêt de nouveaux lits, aménager sans arrêt de nouveaux espaces. Déjà, avec ce qui est déjà investi par le tourisme à l'heure actuelle, il y a de quoi accueillir des quantités plus importantes de touristes encore.
Rémi Knafou, vous défendez l'idée d'un tourisme régulé, mais, et à vous entendre, je le comprends parfaitement, qui est aux antipodes du tourisme de masse. Ce modèle-là, d'après vous, il est voué à l'échec parce que, si je vous comprends bien, il porte en lui les germes de l'absurdité.
Effectivement, on ne peut pas continuer sur une croissance aussi forte, aussi infinie, et surtout une croissance qui se manifeste par des territoires nouveaux sans arrêt conquis au profit du tourisme. Le tourisme a déjà investi de vastes territoires qui sont, à certains moments d'ailleurs, qui commencent à trouver qu'ils sont trop dépendants vis-à-vis du tourisme. La crise de la pandémie du Covid leur fait sentir extrêmement fortement ce poids du tourisme lorsque les touristes brusquement ne viennent plus. Donc là, il y a une nécessité effectivement de réguler effectivement le tourisme, d'éviter que certains espaces qui ne sont pas encore touristiques ou qui le sont peu le deviennent avec excès. Et en particulier dans mon livre, je propose que le continent antarctique, qui est loin de tous les marchés émetteurs de touristes, qui est un continent sans habitat permanent, soit sanctuarisé en quelque sorte. On peut faire l'économie d'aller faire du tourisme aussi loin. En plus, on est à 12, 13, 14 000 kilomètres des marchés. Ce sont des bilans carbone dévastateurs. Donc, voilà des exemples. Voilà un exemple symbolique très fort qui consisterait à mettre sous cloche le continent antarctique, à l'épargner des flux touristiques. Voilà. Donc, c'est ce type de démarche, je crois qu'il est nécessaire de développer dans l'avenir afin que nous puissions concilier, parce que c'est ça l'enjeu, concilier à la fois le désir que nous avons d'aller vers d'autres espaces, vers l'ailleurs, vers d'autres sociétés, et en même temps, tenir compte de la nécessaire transition écologique pour le tourisme aussi.
Oui, ben, il y a des pays dont l'économie repose en partie sur le tourisme. Alors, je pense à l'Italie, je pense à la Grèce, il y a la France aussi. Est-ce que ça veut dire que pour ces pays-là, l'Espagne bien sûr, est-ce que cela veut dire que pour ces pays-là, il faut déjà réfléchir à un autre modèle?
Ah, sûrement. Sûrement, c'est tout à fait indispensable. On ne l'a pas fait suffisamment parce que la facilité jusqu'à présent, c'était une sorte de fuite en avant. Mais il faut réfléchir à un autre modèle. Il faut davantage mieux utiliser les ressources telles qu'elles existent à l'heure actuelle, mieux accueillir. On peut, sans aller forcément avec comment dire, un nombre croissant de touristes infinis, on peut augmenter les revenus du tourisme, intensifier les revenus du tourisme, et en même temps, ce qu'il faut essayer de faire dans certains territoires qui sont très dépendants, voire totalement dépendants du tourisme, c'est réfléchir à des solutions alternatives. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça
Oui.
se pense sur le moyen et long terme.
Mais est-ce qu'il y a par exemple des idées fausses? Alors, je ne vais pas vous poser la question philosophique, qu'est-ce qu'un touriste, qu'est-ce qu'un voyageur, mais est-ce qu'il y a des idées fausses encore aujourd'hui, des idées reçues sur le tourisme?
Mais il y en a beaucoup, effectivement, il y en a beaucoup, aussi bien sur le tourisme en général que sur les lieux touristiques. Vous faisiez allusion, par exemple, à Venise. Venise est un lieu unique au monde, un patrimoine absolument fabuleux qui est hérité d'un système marchand du Moyen Âge qui avait déjà commencé à décliner au XVIe siècle. Et ces richesses héritées, ce patrimoine-là, qui est un patrimoine fragile dans la lagune, etc., il est très coûteux à entretenir. Et c'est le tourisme qui permet d'entretenir ce patrimoine. Donc il y a une contradiction qui est très forte, c'est-à-dire que ce sont les touristes qui viennent, qui permettent par l'argent qu'ils apportent d'entretenir, de faire vivre ce patrimoine. Et en même temps, quand la dépendance est trop forte, il y a des effets pervers qui se multiplient, une population qui diminue, mais une population qui diminue. À l'heure actuelle, l'un des problèmes de Venise, outre la question des croisières, l'un des problèmes de Venise est qu'il y a beaucoup de gens qui ne viennent que pour la journée, alors que la capacité d'accueil est d'environ. Bon, Venise est environ 20 millions de touristes à l'heure actuelle, hein. 20 millions par an. Enfin, du moins, c'était le cas jusqu'en 2019, puisque depuis la pandémie, la ville souffre beaucoup et a du mal à faire repartir son tourisme. Mais sans l'argent des touristes, l'économie vénitienne n'est pas viable. Et en même temps, on voyait jusqu'en 2019 que c'était les Vénitiens eux-mêmes qui mettaient de plus en plus sur le marché touristique des logements qui étaient transformés en logements touristiques et qui, de ce fait, étaient ôtés du marché locatif général de Venise. Et c'est ainsi qu'à Venise, comme dans d'autres lieux touristiques, que les jeunes n'arrivent plus à se loger. Donc on voit que c'est pas simplement le système extérieur, c'est aussi la société vénitienne, c'est l'appât du gain qui fait qu'elle rentre dans ce cercle vicieux, devenant de plus en plus touristique. Et on voit bien à quel point nous sommes pris dans des contradictions pour gérer ce type de lieu, et que les solutions résident principalement dans le courage politique, qui d'ailleurs à Venise fait malheureusement cruellement défaut, parce que si les autorités vénitiennes voulaient véritablement réguler le nombre des touristes, diminuer le nombre des excursionnistes ou des croisières par exemple, il existe des solutions qui ne sont pas si difficiles que ça à prendre. Simplement, la conséquence de ces solutions, c'est un moindre revenu.
Et voilà, oui, mais c'est ça, effectivement, c'est aussi ce que l'on appelle le courage politique. Merci Rémy Cnafou, professeur émérite de géographie à l'Université Paris-1-Sorbonne. Je rappelle votre livre « Réinventer le tourisme, sauver nos vacances sans détruire le monde » aux éditions du Faubourg. Merci beaucoup.
Merci à vous.